première part des arcades. De Tarry Rock et branché du coup.
Oui.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, une fort bonne année. Hein, comme il se doit dans la tradition, et que ce 2020 soit bien moins pourri que ce 2021 va être Bon, voilà. C'est Source, c'est l'émission du Libre, des Libres, de la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles, elle aussi. Et nous sommes en ce premier de l'an et en ce premier vendredi du mois, comme le veut notre calendrier de cette émission libriste, tous les premiers et troisièmes vendredis de 18h à 19h30. Un petit coup d'œil sur l'actualité du Libre, l'actualité du net, l'actualité des applis pour petits et grands écrans et de ce que le monde du libre peut nous apporter, hein, à l'inverse voilà, de ce qu'il se passe dans un monde moins libre. Mais hélas, nous aurions bien voulu vous faire tout un bel étalage de bonnes résolutions à prendre pour 2021, parce qu'il y a des choses à faire, hein, bien entendu. Toutes ces longs mois de vidéoconférence sur des outils pas toujours très respectueux, pas toujours très propres, pas toujours très ouverts. Bon, voilà, un peu tout ça. Mais l'actualité est plus crue, plus riche que cela. C'est que nous avons d'abord un hommage à rendre à un des nôtres, un camarade qui nous a quittés juste fin décembre. Je me dis, tiens, c'est étrange, les fins décembre sont toujours néfastes apparemment, hein, si on verra qu'au niveau des dates, un certain Yann Murdoch, initiateur de la distribution Debian et de toute la communauté qu'il y avait autour, eh bien également nous a quittés un 26 ou 28 décembre, voilà. Bon, Ivan Markov, c'était un grand libérateur, un maker, c'était un entremetteur, il faisait se rencontrer plein de gens. Et nous aurons donc l'occasion, durant toute cette bonne partie d'émission, de vous le présenter, mais surtout donc pour nous de lui rendre hommage et un grand merci. Je dirais que le temps que notre mumble.src.brussels se mettent définitivement en place, on me fera signer à un moment donné, on me criera dans l'oreillette, ouais c'est cool, ça marche sur mumble.src. Brussels, voilà, ce sera notre salon de causerie avec certains et certaines des nôtres qui sont aux antipodes, hein. Les gens antipodes sont partout. Et oui, voilà, Yvan, l'homme à la péniche, l'homme au Brompton, l'homme à la chignole, l'homme au petit ordinateur de poche et tout ce qu'il a pu faire comme type de réseautage au niveau du logement, de l'habitat, tiny house et ce genre de petites choses. Voilà, je mettrai volontiers un petit bout de au bout du fil.com, histoire de se mettre un petit peu en dub. Un petit morceau de dub avec les restes de New York par Mel. Puis, si c'est parti, c'est que ça marche. Et si ça marche, c'est que c'est goal. Sinon, comme vous savez, à un moment donné, voilà. À tout de suite. était reparti pour un petit morceau de Les Restes de New York, de Melpé. Bon, voilà, c'était du metal dub instrumental. Peut-être pas vraiment du hasard parce que je me souviens que Yvan aimait bien manipuler le fer à souder, en tout cas s'occuper de sa péniche de manière royale, en tout cas. Et je vais mettre les copains collègues en studio pour parler, souvenir, faire du lien. Merci à Tariroc, à Denis, à Nico, à Géo et à Tirs d'être parmi nous. Et via Mumble, Alm et Daco. Bonjour les amis.
Salut.
Hello.
Yo.
Et bonne année.
On va quand même essayer.
1, 2, 3, bonne année!
Bonne année! 2022!
On est synchro.
Ouais, on t'envoie loin déjà.
Mais nous, on n'est pas encore en 2022.
Bion. Alors, pour ce début d'année, 1er janvier de l'an de grâce 2021, Holm, parce que je sais que je t'entends bien au bout de Mumble, tu es dans quel état en ce premier jour de l'an? Après cette nouvelle.
Et on a perdu Holm.
Je suis pas très bien. Je dois avouer que ça m'a vraiment touché. Mmh. Yvan, c'est une personne qui a énormément compté pour moi. Et qui a, je pense, a compté énormément pour beaucoup de gens, avec son grand cœur, avec la passion, avec son intelligence, avec sa perspicacité, qui lui a fait, vraiment, je sais pas comment décrire ça. C'est un gars qui était toujours un peu à l'avance de son temps.
Ouais.
En gros, c'était quelqu'un qui était absolument pas technicien, mais qui a réussi à apprendre à d'autres gens avant qu'ils ne découvrent des tas de trucs. C'est lui aussi qui a lancé donc le réseau citoyen. Des premiers réseaux mesh mondiaux. Alors que la technologie du Wi-Fi était encore balbutiante, lui avait déjà pensé beaucoup plus loin.
Ouais, c'est avec Bong Bolong, moi en tout cas, que je l'ai rencontré au niveau d'XL et de la rue Malibran, où j'habitais à l'époque. Il y avait cette tentative de connecter les coins de rue et les appuis de fenêtres avec des super antennes en boîte de Pringles. Et c'est vrai que le Wi-Fi, c'était pas encore ça à l'époque, ouais.
Ben, c'est peut-être un peu ce qui a cassé le projet quelque part, c'est qu'il était un tout petit peu en avance sur son temps et que la difficulté de rejoindre le côté technique et le côté populaire a parfois vraiment capoté. Mais c'est pas grave.
Mmh.
Et c'était aussi ça dans la philosophie d'Yvan, c'est qu'on avance, on sait qu'on avance.
Et c'est un
truc qui me reste aussi de lui, c'est l'idée de jamais mettre de deadline, parce qu'on sait qu'on va les dépasser, ces deadlines.
Ouais.
Lui, il n'en a pas mis, et il l'a dépassé.
Yes, effectivement, on va voir un peu tous les autres projets consécutifs qu'il a porté et aider à porter et distribuer sur les différentes épaules. Tant qu'on est dans Mumble, je voulais voir du côté de Daco. Comment ça va là-bas? Allô Daco?
Pas trop.
Uh-huh.
Mais ouais. C'est normal l'écho qui revient quand je...
Oui.
Un petit peu, c'est un petit peu normal.
Enfin, on a pas réussi à le réduire, mais voilà.
Bah, je sais pas, Olivier a bien parlé.
Mais Olivier a un peu d'écho aussi, je crois.
Ouais.
C'est une question technique ici. On a faire le N-1 dans la nouvelle console de campus était un peu plus complexe que prévu.
Ok.
En tout cas, pour mes pauvres neurones de ce 1er janvier. Et ton lien...
Moi, j'ai du mal à parler. J'aime bien vous écouter. okay. À finir.
Ça va, m'écoute, alors n'hésite pas à intervenir quand tu le sens, quand il y a une étincelle, un souvenir, un truc qui te revient à propos d'Yvan. Ben voilà,
il y en a trop.
Ouais.
Ah oui, c'est ça un petit peu le problème, parce que il était de tous les bons coups, en fait, hein, de toutes les initiatives qui ont démarré sur ces 15 dernières années. Bah, il y avait Yvan quelque part, quoi. Mmh. Il donnait de l'énergie, il donnait de son temps, du travail physique.
Il fiait les gens.
C'est assez impressionnant, c'est une force de la nature. C'est aussi un... C'est pour ça que je t'ai surpris de cette nouvelle.
Mmh. C'est vrai qu'en tapant Yvan Markov, Josapha, on voit tout ce qu'il a mis en route pour au niveau de la friche. Et de belles photos que Marie a réunies dans des albums Flickr, pour ne pas le citer, montrent à quel point Yvan était un sacré bosseur. Quoi. Ça n'avait pas l'air, mais... Denis, oui, pardon.
Oui, mais je voulais rajouter en partant dans le sens d'Olivier, c'était de dire, oui, c'est pas ces 15 dernières années, c'est ces 30 dernières années qu'il a été actif. Peut-être que toi, Olivier, oui, tu le connais depuis 15 ans.
Moi, je
tu le connais depuis 15 ans et que voilà. Mais bon, il t'a pas attendu pour être actif. Et déjà bien avant ça, moi non plus, ni personne, en fait, voilà, bref, c'était sa nature. Donc moi, pour résumer un petit peu, j'ai rencontré Yvan la première fois, je crois que c'était en 77, 78. C'était une belle époque. Et déjà, c'était dans un milieu très, très communautaire. C'était dans une grande maison rue de la Source, à Saint-Gilles. Et c'était une immense baraque. Et il vivait déjà avec Marie et un autre ami qui s'appelait Thierry, qui lui aussi, malheureusement, est décédé, Thierry Godenir. Enfin, et d'autres personnes, c'était vraiment un milieu foisonnant. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, la première table d'hôtes clandestine que j'ai pu être amené à connaître à Bruxelles. C'était dans les années 77, quoi. Ah, petit écho aussi. Donc, enfin, voilà. Et Yvan était très attaché à la communauté dès le début. Moi, en tous les cas, c'est ce qui m'a appris et c'est un terrain sur lequel je me suis tout de suite senti très confort avec lui. Que c'était le commun, tout ça allait de soi et allait de l'avant, quoi, quelque part.
Mmh. Et qu'est-ce que tu as porté comme genre de projet avec Yvan ou quel type d'abord voir ça, puis après, quel type d'énergie il t'a transmis?
Bon, d'abord, c'est vrai, au niveau des logiciels libres, ça c'est clair, puisque c'est toi, Fredo, qui m'a représenté Yvan. Disons qu'on était sur la trace de Réseau Citoyen et qu'on est très rapidement tombé sur notre ami Yvan, à l'époque. Et donc, du coup, bah, c'était l'occasion de renouer contact et de se rendre compte que bon, bah, tout ça avait pris corps, hein, entre-temps, que bien des choses avaient pris sens et... de l'eau avait coulé sous le pont en même temps, parce que c'était déjà 20 ans après. Enfin, voilà. Je ne l'avais pas revu depuis un moment. Je le voyais épisodiquement avec son vélo, traverser Bruxelles par Mons et par Vaux et par tous les temps, je me disais souvent. Enfin, il m'est arrivé de croiser Yvan à vélo et de penser en moi-même. Je me dis que c'est quand même... quelle utopie, quelle... Et en même temps, c'est le mot magique avec Yvan, c'est utopie, quoi. C'est donner du sens à l'utopie du corps à l'utopie. Mmh. Je dirais que c'est comme ça que je le définirais, quoi.
Mmh. Bizarrement, ces utopies deviennent du réel.
Oui.
Que ce soit...
C'est son gaz ambiant, si on peut dire. Quelque part, c'est quelque chose qu'il entretient savamment autour de lui. Mmh. Un état d'excitation, un état d'étincelle comme ça, magique. Et de temps en temps, il s'en inspire, mais la plupart du temps, il en inspirait surtout les autres.
Ouais, ouais. Ouais, dernière retrouvaille dans la vraie vie, c'était une après-midi consacrée à la monnaie libre. En majuscule, lancé par Financité. Et donc voilà, il avait de nouveau pointé un truc qui allait révolutionner nécessairement, en tout cas les réseaux humains dans lesquels il gravitait perpétuellement. en lien aussi avec l'habitat groupé et ce genre de choses. Ouais, non, c'est, je vois ce que tu veux dire. Et quand il n'était pas sur sa péniche, évidemment, tout le voyant en bretonne.
Accessoirement, pas sur sa péniche, pas entre, enfin, entre péniche, friche et refriche, mais plus urbaine, la poissonnerie, parce que ça reste de la friche, hein, ça reste quand même... Mmh. Faut parfois aller un peu en profondeur, remuer un peu le terrain, et il faisait ça savamment, quoi. Mmh. À coups de charrette à vélo et de... Mais j'étais étonné, le premier hommage comme ça qui lui a été rendu tout à fait spontanément, rue du Progrès, il y avait beaucoup, énormément de femmes voilées. Et je dois dire que j'ai été très ému. Mmh. Parce que moi encore, j'essaie de combattre des préjugés et de comprendre certaines choses et comment agir et comment essayer d'avoir prise là-dessus. Et lui, il donnait tellement de prise d'air, d'aération à sa manière d'être que ça n'intoxiquait pas l'autre, ça ne pouvait pas l'intoxiquer, quoi. Mmh. C'était toujours en respiration, quelque part. Sa forme de communication. Et j'étais vraiment très étonné de voir à quel point ces femmes étaient touchées, ces enfants, ces femmes. En très peu de temps, en 2-3 ans, en étant un citoyen qui est venu, qui a emménagé là, comme les autres. Hein. Il y en a qui habitent depuis 40 ans rue du Progrès et ça se passe bien pour eux, quoi. C'est autre chose.
Ouais, ouais, donc c'est le fait d'être libriste, entre guillemets, c'est pas un snobisme, mais c'était un plus à ses yeux. Mais peu importe, voilà, il brassait tous les publics, les libristes ou pas.
Oui, peu importe le moyen, quelque part, lui, c'était une communication très spontanée, mais juste faite de science et de connaissances, quoi. Parce qu'il n'arrêtait pas de creuser des sujets et il prétendait pas connaître la vérité, ni la... Enfin, voilà, il détenait pas le fin mot de l'histoire, ça c'est sûr, quoi. Qu'au contraire, il était toujours là pour remettre le fin mot de l'histoire en question. D'ailleurs, plusieurs fois, il disait quelque chose, et le lendemain, c'était exactement son contraire, quoi.
Je ne dirais pas exactement son contraire, mais je crois qu'effectivement, c'est un des gars qui n'a pas une formation universitaire ou scientifique, mais qui avait un raisonnement des plus scientifiques, avec une sorte de comment dire, d'intuition de la méthode scientifique, d'intuition de comment rechercher les vraies informations, comment pouvoir douter sans s'engouffrer dans des théories du complot et autres stupidités qui vont nous porter trop loin, et en même temps avec toujours un doute sain sur les choses. Oui, il y a vraiment une réflexion saine chez lui et une écoute tant des autres, de leurs propres doutes et de leurs contradictions, avec l'envie de pouvoir rassembler. Et comme tu disais, effectivement, la question communautaire était essentielle chez lui.
Mmh. Ah. Une capacité à se remettre en question, effectivement, pas pour sombrer dans le nombrilisme, mais surtout une force à se remettre en réponse.
C'est, une passion du débat contradictoire, quasi. Ouais. Mais c'est vrai. Mais c'est là qu'on chauffe les idées à rouge et qu'on arrive à développer justement des utopies et à rendre ces utopies, je pense que c'est le fin mot. Enfin, la clé de voûte, quelque part. Mmh. L'utopie et donner corps à l'utopie. Parce que ce qui paraissait impossible l'est devenu. Et en général, les gros changements sont quand même advenus au travers d'utopie. Hein, si on se retourne un petit peu... dans le passé récent, mais même pas si récent que ça, c'est les utopies qui ont été le vecteur des plus grands changements en réalité. Donc, s'attaquer à des utopies, c'est pas vain, c'est pas et c'est ce qui nous rappelait très souvent.
Mmh. Ouais, parce que son dernier projet à la friche, faire des maisons avec une scie et une chignole à la place d'une scie sauteuse et d'une foreuse électrique, il a démontré, hein, proof of concept, que la POC Josaphat était totalement viable. Et c'est là aussi qu'il avait fait le grand dôme salle de réunion, quoi.
Je crois que le dôme, c'est pas lui qui l'a fait. Hein.
Non,
non, je suis pas sûr.
Non, ça c'était. C'était
juste... Non.
Hein, Olivier, le dôme.
Mais non, non, c'était lui. Lui, c'était sa son espace d'habitation. Et effectivement, son idée, c'était d'aller vers l'utopie, mais un pas à la fois. Et on sait qu'on avance. On va à son rythme. On n'a pas d'agenda et on n'a pas de deadline, comme je disais, mais on avance.
Et on, a surtout
et on
pas
sait qu'on va devoir reculer parfois, mais on avance.
Et on n'a pas de compte à rendre. Parce qu'Yvan ne rendait compte à personne. Et à tout le monde en même temps.
Je mettrais bien une petite pause musicale en route parce que on a eu Marie avant de prendre l'antenne, elle était dans notre salon mumble.src.brussels et là elle n'est plus dans le salon. Ce serait chouette de voir profiter de cette pause musicale avec Santiago Louvet et son morceau Recuerdos, que à ce moment-là on passe un petit coup de biniou à Marie, on voit pour la mettre dans la boucle. Ça va? C'est parti. C'est parti, je disais.
Recuerdos de la ayer. Me invitan a pensar que ya no soy aquel del mañana que soñé. La vida ya no sabe de mis sueños y mi fe. Caminando entre la niebla no hay lugar para creer. No está claro para mí si es de oro o es de sal. Saber si soy el rey o el bufón de esta farsa. De saber qué es lo que dejo y si me recordarás, si es pesada para mí la angustia de existir. Caminando sin destino, atravesando el ancho mar, uno se va dando cuenta que es tan solo en esto de vivir. La vida ya no sabe de mis sueños y mi fe. Caminando entre la niebla no hay lugar para creer. No está claro para mí si es de oro o es de sal. Saber si soy el rey o el bufón de esta farsa. De saber qué es lo que dejo y si me recordarás, si es pesada para mí la angustia de existir. Caminando sin destino, atravesando el ancho mar. Uno se va dando cuenta que es tan solo en esto de vivir.
C'est pas elle, 6, 5, 6.
Voilà un petit morceau d'électro tango Maktub de Santiago Louvet avec son morceau Recuerdos. Et voilà, nous revenons à notre salon Mumble. Et, et quand je disais effectivement 20 secondes pour la fin d'un. Coucou les amis. Ouais, on voulait qu'on propose, on prolonge un petit peu la pause musicale.
Comme vous voulez, moi.
Hein
tu as Marie ?
Écoute, bizarrement, au téléphone, elle me dit qu'elle est bien sur le salon Mumble, mais on ne la voit pas. Mais elle nous entend, en tout cas, Lix. Que...
C'est déjà pas mal.
Oui.
C'est... Mais est-ce qu'elle a un micro sur sa machine ?
Oui. Okay. Même un casque et tout. Non. Mais bizarrement, il y a quelque chose au niveau de la connectique. Donc, https://mumble.src.brussels. Marie, si tu nous écoutes, tu devrais vraiment être dessus, mais je dois t'avouer que techniquement, pour nous, tu n'es pas encore dans
c'est
le salon.
C'est quoi, Marie, sur le
6565 non, c'est moi, j'ai rafraîchi, c'était peut-être dans mon navigateur qu'il y avait un pépin, et je vais me renommer.
J'ai communiqué aussi l'adresse Mumble à Daniel Applebaum, Daniel Applebaum et Nicolas Youngen. En me disant peut-être qu'ils auraient quelque chose, voilà, qui voudrait intervenir. Normalement, ils sont censés. Enfin, si tel est leur désir, en tous les cas, voilà.
Ouais.
Mais sinon, du coup.
En fait, c'est un de ces trucs que je trouvais incroyable avec Yvan. C'est qu'il y a autour de lui une galaxie de personnes qui parfois ne se connaissent pas les uns les autres. Ou se rend compte de par lui. Et en gros, quand il se rend compte, c'est chaque fois une explosion ou une étincelle, quoi. Il y a une magie qu'il avait de pouvoir connecter comme ça des personnes de droite, de gauche, de quand ils rencontraient quelqu'un, de sentir la petite étincelle dans les yeux ou le comment dire la le de sentir quel était le sujet ou le filon qui allait pouvoir amener cette personne à collaborer à tous les autres projets dans lesquels il était.
Exact.
Ouais,
ça veut dire quoi, tu sais repasser? Et ouais, ça m'intéresse.
Mais ouais, comme tu dis, Holm, j'ai vraiment la vision de la première scène du film Les Nouveaux Sauvages, hein, quand tous ces gens dans l'avion se rendent compte que tiens, ils sont là, bon, dans le film évidemment c'est beaucoup plus trash, mais qu'en fait ils connaissent tous le pilote de l'avion qui est en train de les emmener dans un crash total. Mais avec Yvan, c'était pile poil l'inverse. C'est que tout le monde, à un moment donné, se rendait compte que, ah mais oui, ben voilà, voilà, on a quelqu'un en commun. Et tu disais que tu allais... Il était prévu que tu ailles boire un thé avec Yvan la semaine prochaine. Vous aviez une petite casserole sur le feu, un chantier en cours, juste envie de vous voir.
Ben, en gros, on devait surtout se reconnecter parce que moi, j'ai quitté Bruxelles, grosso modo, depuis 2-3 ans. Mm-hmm. Du coup, j'y suis beaucoup, beaucoup moins et je n'ai pas pu participer à ces projets derniers. Donc, je comptais reconnecter avec lui dernièrement. Je l'ai eu au téléphone il y a pas très longtemps, pas plus d'une semaine. Et donc, ouais, c'était un projet, c'est de se revoir et de rediscuter de tout ça. Moi, ici, je voudrais bien relancer un Fab Lab rural du côté de Soigny. Donc, voilà, Yvan, c'était une inspiration, on devrait se revoir pour parler de son projet là sur la friche et de comment tout ça bougeait. Donc c'est pour ça cette histoire là. C'est une surprise et une telle déception.
Ouais, vous aviez déjà des plans pour bien commencer 2021. Et voilà, il va falloir se recharger les batteries et poursuivre avec Yvan en pensée.
Bah, il ne me quittera jamais, ça c'est clair.
Là, on a retrouvé Marie.
Mais oui, oui. Voilà, chouette. C'est Marie qui nous a retrouvés. Donc, ouais, tu peux cliquer sur le studio pour te déplacer dans le studio.
Je suis arrivé.
Ah
ouais.
Oui,
ah
oui, ça y est, on t'entend.
Bonsoir Marie. Ah, bienvenue.
Bonsoir.
Et
bonsoir tout le monde. Bonsoir
Marie.
Salut Marie.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Donc, tu étais fort proche d'Yvan, hein ? Il n'y a pas à dire, hein, comme en bruxellois, on dit que vous étiez un peu collé, hein, comme ça, sur les bords. Et tu as pris des super photos aussi.
C'est bizarre, j'ai un double écho.
Vas-y, continue à parler. Lentement. Ok. Essayez de continuer à parler en continu, lentement, mais en continu.
Et on s'habitue à s'entendre parler un peu. Il y a un petit écho, effectivement, c'est technique. Mais c'est pas le supprimer, pour le moment en tout cas. Marie, tu as pris beaucoup de place dans la vie d'Yvan, ou Yvan a pris beaucoup de place dans la tienne. Vous étiez fort proche, vous étiez... Moi, j'apprécie beaucoup, ce sont tes photos. Ce que tu arrives à faire transparaître de ce qu'était Yvan et de sa relation au monde et aux autres à travers tes photos, il y a quelque chose de magique qui ressort.
Je te remercie parce que Yvan et moi, c'est une relation de 42 années. Et par rapport à son projet Make-It, je voudrais vous résumer. Il l'a conçu, puis à la poissonnerie, il l'a monté, il l'a démonté et il a tout transporté à vélo jusqu'à la friche.
Wow. Ouh. Et donc le projet Make It d'Yvan, c'était donc de fabriquer ce qu'on appelle en anglais un tiny house. C'était une petite habitation expérimentale.
Expérimental certainement, et c'était son concept total, et donc l'idée c'était d'avoir un logement qui se transporte comme un container, mais qui soit réalisé en bois avec des matériaux de récup. Par exemple, il a beaucoup travaillé les plaques offset qu'il avait récupérées dans une imprimerie. Et c'est avec ça qu'il a fait la couverture du toit. C'est visible sur certaines photos parce qu'après, il a mis un faux plafond. Mais je trouvais que... En fait, c'est un homme qui avait une allure dingue, un sens extrême du bien commun. Quelqu'un de très, très généreux. Je suis émue de votre témoignage. Nous le sommes tous.
Hey, oui.
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, la mort.
Comme s'il n'y avait pas eu assez avec le Covid-19 cette année. Banzai.
Il fallait le voir à vélo, effectivement.
Marie.
Je voudrais.
Attends, j'ai juste une petite question. Marie, rue de la Source.
Oui, vas-y.
Rue de la Source, c'était 77 ou 78?
J'ai entendu. Ah oui, j'ai l'impression que tu me reposes la question, c'est con. Donc, en fait, moi, je me suis établi rue de la Source et j'ai rencontré. En 78, et j'ai rencontré Yvan quelques mois après.
Ouais, non, c'est vrai que c'était...
Ok, voilà, j'hésitais, 77 ou 78, mais c'est 78, voilà, j'étais pas loin.
Ouais, ça pourrait être 77, à peu. Ah, mais bien sûr, c'est la... On se connaissait aussi déjà. Hein. J'ai d'abord connu ton frère, ton grand frère.
Oui, Marco.
C'est voilà.
Par Marco que je suis arrivé à la table d'hôtes clandestine qui avait rue de la Source. Je crois qu'il y a, il y a comment dire, prescription. Il y a maintenant.
C'était quoi le principe? C'était quoi le principe de la table d'hôtes clandestine?
Ah, ça, je ne sais pas.
On peut pas le dire. C'est ça.
En fait, à l'époque, j'ai plaqué un job. J'avais créé un centre de documentation à la GTB. Et puis, j'ai tout plaqué un 1er mai. Et en même temps, mon mariage s'est arrêté. Et je suis venue m'établir à la rue de la Source. Et comme j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai eu l'idée d'ouvrir un restaurant.
J'ai fait la FJTB un 1er mai. C'est pas mal.
Et c'était pas ouvert toujours avec une carte. Hein. C'était sur réservation pour des groupes, etc. Voilà. Et je me suis bien amusé.
Et qu'est-ce qu'on a bien baffré à l'époque ? Parce que, bon, la table d'hôte n'étant qu'un prétexte à ce que les gens mangent les uns à côté des autres ou en face des autres.
Oui, et... ça discutait beaucoup, d'après ce que je me rappelle, ça discutait beaucoup d'architecture, de musique, littérature, peinture, art, mais beaucoup d'architecture quand même. Hein, Marie ?
Oui, parce que j'avais dans mon réseau d'amis de l'époque un étudiant à la Cambre en architecture qui a vécu la révolution de Culot. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Quand l'école d'architecture de la Cambre était à la pointe, de l'imaginaire. Bon. Et la Cambre a changé de statut. Et elle a été gérée, je ne sais pas, comme une école supérieure par l'éducation et tout. Et tous les programmes ont été modifiés, en fait. Et c'était une école d'architecture qui réfléchissait l'accès au logement, le logement accessible. Et beau.
Déjà. Excuse-moi, Marie, je te coupe un peu, mais je précise.
Non, pas du tout.
Je précise déjà.
Coupe-moi.
Oui, vas-y, continue.
Oui. Ah oui, mais tu coupes bien, hein. Tu fais jamais mal.
Oui, voilà. Et donc, beaucoup d'artistes et tout ça respiraient beaucoup, évidemment. Et Yvan, au milieu de tout ça, lui, c'était plutôt le voyageur, le fumeur de pétards, à l'époque, hein, mais il y a prescription.
Oui, je lui ai acheté de l'herbe.
Voilà.
L'époque.
Non, ne donne pas de nom, s'il te plaît. On n'est pas là pour ça, mais bon.
Tu te sens
que à l'époque, voilà.
Je l'ai dit 5 fois, là.
Le sexe, on n'en parlons pas. Et voilà, sexe, art et rock'n'roll, quoi. C'était quand même une autre époque. Hein. Sexe, science, art et rock'n'roll.
J'avais 2 ans à l'époque.
En tout cas, l'entente prodigieuse, intellectuelle que j'ai toujours eue avec Yvan, durée, quoi. Heureusement que vous êtes nombreux pour combler le vide.
Ah oui. De fait, on va rassembler nos énergies, nos cerveaux, nos neurones et refaire du mesh. On va faire du réseau citoyen, mais avec des vrais humains. Laisser les machines de côté. Et il était devenu totalement, on va dire, analogique. Avec sa chignole, son Brompton, son cargo vélo, il avait quand même un petit peu...
Je vous raconte l'histoire de la chignole.
Oui.
Ah oui.
Je vais... Alors, en fait, dans les années 90, Yvan et moi, on s'est construit une cabane dans les bois, dans les Ardennes. Une copine qui était propriétaire d'un petit bout de terrain nous avait donné feu. On n'a pas construit une cabane. On a acheté dans un stock américain, comme on appelle ça, une tente de forme chapiteau, octogonale. Tous les piliers de soutien, c'était grand, hein, c'était haut, avec un trou prévu pour mettre un poêle à bois. Très important. Et j'avais récupéré chez mon papa des vieux outils, dont une chignole magnifique avec un gros ton rouge, là où on tourne. Et Yvan, qui n'a jamais arrêté de construire, évidemment, il a construit une plateforme en bois pour installer le lit. C'était, hyper confort et moi j'adore, je suis très pop-pop et j'adorais cuisiner. Entre autres, hein, j'ai scié des branches aussi.
Ouais, t'allais quand même couper ton bois pour lancer ouais. ton four et ton poêle. Hein, cuisiner.
J'ai des photos de cette période, je vais essayer de les ressortir.
Ah oui, parce que tes albums déjà accessibles sur cette plateforme hein, magique.
Alors, nous avions choisi de ne pas poser de plancher dans cette tente. Elle faisait 6 mètres de diamètre hein, quand même. Et donc, on avait une plateforme pour dormir. Mais on adorait être assis dans le fauteuil, et quand ta main tombe par descend jusqu'au sol, tu touches la racine de l'arbre qui est à côté.
Génial.
Et il y a eu aussi un hiver, il avait beaucoup neigé, et hop, on y va, quoi. Hop, on prend la bagnole et on achète des rouleaux de plastique chantier, hein, mais bien transparent. Parce que la tente, elle n'a pas de fenêtre, évidemment. Et Yvan n'a jamais aimé être enfermé. Et donc, on est allé passer une semaine dans la neige.
Wow.
On a relevé les plusieurs pans de la tente. On a enroulé tous ces plastiques. Et on était au chaud avec le poêle qui ronfle. Et on voyait, on était au cœur de la forêt, quoi.
Waouh,
c'est magnifique.
Ouais,
ça je ne savais pas.
Ouais.
Ça, cette histoire-là, je ne la connaissais pas.
Des anecdotes comme ça, il y en a
des millions.
Enfin, je pourrais vous raconter. On y est allé en automne et en principe, on ne pouvait pas parce que c'est la chasse.
Ouais.
Et donc, on y va quand même. Et moi, je fristouille dans un petit chaudron en fonte. Un bon plat mijoté dehors, hein, sur un feu. Et Yvan, Et alors, on entend des chiens et puis une meute de chasseurs. Mais un peu plus loin. Et je vois passer une biche affolée, bouf, et puis... peu de temps après, une meute de chiens fous. Et est-ce que vous savez ce qui est arrivé? Je ne pouvais pas deviner. L'odeur de bicarbonate flamande était telle que tous les chiens sont venus autour de moi avec la queue agitée.
Excellent.
Et on a sauvé la biche.
Ça mérite une BD. Ouais.
Bravo Marie.
Oh, quelle histoire.
Bon, ta prochaine carbonade flamande 2021, hein, on fera une petite soirée dédiée.
J'espère qu'elle va m'attirer de la même façon et que je sauverai une biche.
Ouais.
Puisses-tu attirer les biches?
Ouh, en plus.
Quand le plaît bon, on attire tout le monde. Hein.
Et bon, c'est tout à fait louable et respectable, hein, mais bon, hors antenne, avant de te rejoindre, que tu nous rejoignes sur le salon Mumble, tu me faisais un petit peu la confidence que tu es légèrement analphabète numérique sur les bords, hein, légèrement, pas grave, tu sais. Mais
oui, et je suis prudente.
Parfait, ça c'est merveilleux, magnifique. Mais je me demandais quelle était ta relation avec Yvan et lui, tout ce que il avait quand même du
autour
côté, ouais, du numérique. Bon, parce qu'on en a quand même quelques-uns de neutrinettes ici, dont il a aussi été un des boosters à l'époque. Il ne te prenait pas trop la tête avec des discussions techniques numériques?
Me prendre la tête, certainement pas. Mais une des contradictions paradoxales que nous avions, bon, moi je suis Mac parce que pour la photo, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Tu vois, et Yvan, ça l'énervait. Alors, j'ai testé. Comment, David Kowalkowski m'avait permis de tester le logiciel libre équivalent d'un Photoshop, moi, quoi. Hein. Mm-hmm. Enfin, moi, c'est Blackroom, quoi. Je l'ai testé, mais pour moi, visuellement, je pouvais pas l'accepter.
C'est pas Darktable.
J'ai une mémoire visuelle de l'image et de ce jeu qu'elle exprime.
Ouais. Ah, Internet est assez capricieux, hein, j'ai l'impression, du côté de Marie.
C'est-à-dire? Mais, vous ne m'entendez plus?
Oui, oui, il y a des vagues comme ça qui vont, qui viennent. Mais c'est lié à ta connexion Internet.
Ah oui, ben justement. Alors, je suis en Wi-Fi parce que le câble qui me relie à la Bbox a été écrasé par une porte.
Voilà. Il y a une porte que Yvan devait aller boulonner.
Vaguement feignasse comme je suis, je comptais sur lui pour m'aider à réparer le câble.
Ah, bah écoute, voilà, première chose que les gnuragistes se mettront en devoir de faire, Marie, pour eux, pour leur karma, pour leur karma 2021. Les gnuragistes viendront te remettre un câble RJ45 en bonnet du fort.
Et Fredux viendra donner un coup de main, je pense.
Oui, Fredux aussi est gnuragiste.
Mais oui. Mais parce que ça, c'est pas tip top un boulot.
Sympa.
C'est pas un boulot pour Neutrinette, ça directement.
Mais quand Fredux dit gnuragiste, il s'engage pas plus que ça non plus.
Ouais.
Si.
Non, ça, non, quand
mais,
même.
Bah, ouais, je suis
ah non, là. Mais moi je vais en profiter, hein. Je profitais d'Yvan, je profiterai de vous. Hein.
Youpi.
Mais on profite tous des uns des autres. C'est ça, la communauté. Et c'est ça qu'avait compris Yvan. C'est que un réseau en étoile, ça marche plus ou moins. Mais un réseau
en treillis.
En mèche.
En treillis, exactement, en mèche. Enfin, mesh, c'est un terme anglais. Hein.
Ouais.
En peer-to-peer
En pair-à-pair, oui. Donc, c'est l'aide de tous vers tous. Et là, ça fonctionne. À un moment donné, on arrive tous à avoir les compétences de ceux qui sont compétents, qui agissent là où il faut.
Chaque recevant devient émetteur. Chaque récepteur devient automatiquement récepteur d'une connaissance, quelque part.
Ah oui, en théorie, ça marche.
C'est ça l'idée.
En pratique aussi. Ouais.
Mais en fait, si vous permettez, c'est la décentralisation du pouvoir.
Oui.
Oui, il ne faut pas oublier, Yvan, c'est aussi un anarchiste.
Non, ça, je ne suis pas d'accord. Oh. Je ne suis pas d'accord.
C'est un anarchiste social.
Ah, d'accord. Non, je voulais juste te contrarier.
Quel troll.
Attention à Denis.
Continue, Olivier.
Continue sur quoi?
Mais sur l'anarchisme.
Sur l'anarchiste humaniste qu'il était.
En fait, oui, Ioli. Yvan, il a pu éveiller chez moi notamment ces idées qui relient l'anarchisme, c'est-à-dire l'absence de chef, avec une relation à la communauté. Avec une relation aux autres qui est en échange, mais où on n'est pas tous absolument à égal. C'est là où ça a d'ailleurs coincé avec Réseau Citoyen et un des autres initiateurs, Charles, pour ne pas le nommer, qui lui, par ailleurs, était relativement absolutiste et voulait une égalité totale entre chaque node. Ce n'est pas possible. Chaque humain n'est pas égal à l'autre. On a tous une vie et une origine qui est différente. On a tous des compétences, des capacités.
Une disponibilité.
Des disponibilités. Enfin, mmh. Oui, on est tous différents. Donc on doit juste arriver à coordonner nos compétences communes dans un système qui fonctionne. Mais pour ça, il faut pouvoir reconnaître chaque humain avec ses caractéristiques. Et je crois qu'Yvan avait cette sensibilité-là.
Ouais.
Ça a quelque chose à voir avec l'humilité aussi. Le peu... désolé, mais moi je suis hyper émotif, donc quand je dois parler de quelqu'un qui vient de décéder, je suis toujours la gorge serrée. Mais moi je l'ai croisé deux fois. Je ne me souviens plus exactement des contenus, mais je ne sais pas comment dire. Ce qui m'a touché, c'est une certaine humilité que ce personnage qui était assis sur une chaise avait. La première fois, je croyais que c'était un vieux papy qui venait, comment dire, curieusement participer à une réunion. Je crois que c'était une mode libre.
Déployer sa science.
Ben non, justement. Non, justement. Avec une espèce de... Allez, moi, ce qui m'a intrigué, c'est un côté genre vieux papy complètement décalé de fait, comme tu disais, un peu du numérique comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fout là, une réunion monnaie libre?
Moi, je me souviens aussi, j'étais là à cette réunion et quand il s'est présenté, il y avait beaucoup, je ne sais plus comment il s'est présenté, mais il y avait beaucoup d'autodérision dans sa manière de se présenter. Non, en fait, moi, je ne suis personne. Je pense qu'il avait dit un truc comme ça. Et une forte humilité. Et donc, il est parmi les 20 participants. C'est un participant parmi d'autres. Et puis après la réunion, on discute et tout. Et en fait, on se rend compte que, qu'il a une histoire immense. En fait.
Ouais, je sais pas comment dire. On voyait le lien dans plein de projets d'un monde en transition comme ça.
Et c'est la personne la plus humble que j'ai jamais rencontrée.
Ouais, il y a quelque chose de ça. Et je pense que c'est important justement dans cette absence de chef ou de lead, c'est de pouvoir se placer au bon endroit au bon moment, sans vraiment attendre quelque chose en retour. Et juste le faire parce que c'est la bonne chose à faire.
Mais je peux réagir?
Ah mais oui, certes.
En fait, l'attitude, pour moi, l'attitude d'Yvan est vraiment, en plus, sa perception de l'anarchie.
Et sa notion d'économie du temps.
Sa notion de quoi?
D'économie du temps?
C'est ça du don, ouais.
Ah oui.
Du don.
Ah, du don, pardon.
Excuse-moi, là, j'ai pas très bien compris. Tu peux répéter, Marie, calmement. Enfin.
Oui, volontiers. En fait, le camarade qui évoquait cette modestie évidente, dans le comportement d'Yvan, mais c'est comme ça aussi. Qu'ils vivent l'anarchie, parce que l'anarchie, c'est ça. C'est-à-dire, c'est construire ensemble quelque chose de mieux à côté du grand schmilblick, quoi. Je voudrais vous raconter une anecdote au sujet d'Yvan. Je ne sais pas si c'est le moment.
Vas-y. Ah bah oui.
Avant 19h30 en tout cas.
Oui. D'accord.
Pour aujourd'hui.
Allez.
En direct, dans Source.
J'y vais. Donc, Yvan, quand il a eu l'âge, il a dû faire au service militaire, à l'époque. Alors, comme ça a toujours été un gars qui n'a jamais fait semblant, il a choisi de faire ça chez les... Au moins, il allait vivre des sensations fortes et
c'est qui? C'est pas, ça a coupé le mot.
Forte et virile, je rajouterais.
C'est les paras, ok.
J'ai pas dit viril. C'est une sensation forte et réelle.
D'accord.
Et donc, pour insoumission, il a dû faire du cachot. Et il a d'abord pris ça. Ouf, on fout la paix, quoi. Hein. Et puis, très, très vite, il a compris comment en sortir. Il a décelé une bombe dans le mur pour dégager le verrou, quoi.
Ouh. Ça, c'est de la rébellion.
Et alors,
chez les paras.
Il y a eu un soir, hop, il est allé libérer les autres gueux qui étaient dans des cachots comme lui. Et ils sont tous partis boire un verre au bistrot du village.
Et là aussi, à prescription. Je rajoute.
Non, mais c'est génial, quoi.
Oui.
Excellent.
Mettre son intelligence au service des autres, il l'a toujours fait.
Oui.
Mais avec un courage énorme.
Ah ouais?
C'est...
Mais écoute. Très courageux pour un grand timide.
Je crois aussi, enfin, si je peux encore ajouter quelque chose, c'est si le mot intelligence collective prend du sens, c'est bien avec Yvan.
Ah ouais. Ah ben oui. Ah oui.
Une piste de réflexion.
Et petite chose, une petite lecture que je trouve sur le net, sur le site de selfcity.be en 2016. Un journaliste était venu le trouver pour voir ce qui était en chantier avec ces maisons modulaires et construites à Bruxelles. Et alors il y a ce petit début de paragraphe. Yvan Markov est au cœur du projet Make It. Il a une barbe blanche, un esprit rêveur et pratique pour changer le monde. Il se présente, seulement s'il le faut, comme citoyen lambda, 35 ans de chômage, rêveur. Et le journaliste poursuit, je viens lui, attiré par la possibilité que son projet soit utile ou une inspiration pour le thème ou le public de Douche Flux Magazine. On ne parle pas de comment installer les douches dans sa maison, mais la chignole sur la table, et oui, déjà, le vélo à l'entrée de la poissonnerie où il habite, font un résumé technique. Bois de récup pour les poutres, scie à main ou à vélo, chignole, vis d'assemblage, carton de récup pour les murs, feuilles métalliques de récup pour la toiture. Hein, voilà, il peut contempler donc cette fameuse maquette qu'il avait fait à la poissonnerie, montée, démontée et remontée à la friche. Voilà, mais donc, citoyen lambda, de nouveau, un grand sens, presque
oui,
de
l'effacement. Oui, chômeur, 35 ans.
Bricoleur de base.
Et c'est le gars qui a probablement travaillé le plus que n'importe quelle autre personne.
Oui, ça c'est clair. En tous les cas, il a beaucoup pédalé.
Ouais.
Pour la bonne cause.
Oh oui. Ah oui, c'est Mr. Brompton là. Hein.
Et absolument polyvalent en fait. Mm-hmm. Intellectuellement assez au top plutôt, et puis très physique. Ouais. Construire.
Faudra un jour par exemple raconter comment il a participé ou plutôt porté le hackerspace Bruxelles. Quand il se réorganiser et s'installer temporairement à Saint-Josse.
C'est le PN dont tu veux parler.
Le hackerspace.
Parce que Peter m'a.
Il a bossé comme un fou. Et puis ça s'est déplacé et il a encore bossé comme un fou. Et puis ça, c'est tout ce travail s'est perdu quelque part parce que Hackerspace n'a pas pu s'installer là. Et peu importe, il a travaillé sur des projets pratiques entre électricité, l'eau, les murs, n'importe quoi.
Tout était bon. Oui,
c'est... Non, c'est parce que. Il avait une vision globale des choses à faire.
Oui, tout à fait.
Il avait quand même un côté, quelque part, très solitaire, où il cherchait à accomplir un maximum de tâches par lui-même. Et en même temps, bon, il devait faire quand même appel à certaines compétences. Alors là, bon...
Ce ne serait pas plutôt autonome que solitaire ?
Ça, il n'y a que Marie, qui pourra le, confirmer. Moi, je pense que c'est quelqu'un de solitaire. Je vois bien un marin, quoi. Je le vois, franchement, Yvan, je le vois bien sur la mer, à naviguer et envoyer ses petites directives ou ses pensées, comme ça, ses écrits par goéland ou par, je sais pas, par pigeon.
Oui et non.
Non, ça aurait pu être un fantasme, mais dans le réel, c'était
pas ça. Tu évoques un bateau. Je vous livre ce qui nous est arrivé. Il y a...
Ça a coupé.
Voilà. En fait, il y a plusieurs paires d'années, on s'est liés d'amitié, Yvan et moi, avec un copain et qui venait de racheter un voilier en bois magnifique, un sloop avec une belle coque et tout, mais en très mauvais état. Et donc, on a travaillé un an à restaurer le bateau. Yvan, moi, j'étais très active là-dessus aussi, et puis nos amis et tout. On a fait quelques petits tours avec, mais avec la copine de notre ami, c'est pas possible de se retrouver sur un bateau, un petit bateau à quatre et tout. Et Yvan me dit, moi je n'y vais pas. Et j'ai dit, moi je ne le sors pas non plus, évidemment. Et ils sont partis avec... Je ne sais pas si je dois raconter ça, mais c'est pour vous. Et ils sont partis avec d'autres personnes. Eh bien, la fille, elle a tellement fait chier les autres qu'il y en a un qui l'a acheté par-dessus bord. Bon, pas pour provoquer une noyade, hein, mais c'est pour la faire taire. Yvan l'avait bien senti.
Tout bon capitaine sans...
Mais on s'en fout. Nous avons acquis les connaissances pour refaire le calfa d'un pont en bois, etc. Quand tu vois.
Et son amour pour les péniches, alors, comment s'est-il amené passé du bois à l'acier? C'est ça, on passe de la chignole au fer à souder.
On avait dit polyvalent, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, Yvan, sa petite enfance, c'était au bord d'un canal, à Gand. Son père était ingénieur textile et il gérait une entreprise, voilà, une filature. Et Yvan observait volontiers, c'est ce qu'il me racontait, les chalands qui venaient débarquer les balles de coton et tout le reste, mais le calme d'un canal ou d'un lac. Il n'a pas vraiment recherché la mer déchaînée, non. Puis elle kiffe de beaucoup de voiliers. Hein,
mais... Franchement, moi, ça ne m'aurait pas étonné qu'il fasse l'acquisition à 15 mètres non plus, quoi. Ça aurait été du même tenon à l'époque. Il m'aurait annoncé, j'ai fait l'acquisition à 15 mètres de croisière, enfin, je sais pas, pas un bateau de croisière, mais un beau voilier, un catamaran, quelque chose qui prend la mer ou la péniche. Pour moi, ça aurait été exactement la même surprise. Et franchement, je dois dire que j'étais très
plus simple à l'époque. Hein.
Vraiment, mais il m'a pris tout à fait de... Enfin, je crois qu'il en a pris plus d'un de... par surprise sur ce coup-là.
Oui,
parce que son moi, projet,
on a beaucoup collectif. Discuté, lui et moi, sur ce choix d'acheter une péniche. Et je ne l'ai jamais encouragé. Hein. Parce que moi, intuitivement, pour moi, c'était tellement lourd à gérer. Et voilà, on a eu l'occasion d'acheter un vieux hameau dans le sud-ouest, Saint-Amand-le-Vieux. C'était un endroit magique, on a beaucoup tourné autour. Et il aurait sûrement reconstruit les toits en lauze.
Holm, tu disais pendant que Marie parlait que le coup de la péniche, c'était aussi un grand projet participatif.
Oui.
Si j'ai retenu, oui.
Moi, j'ai un petit peu suivi au tout début par la suite. Mais son idée, c'était d'en faire un espèce un hackerspace flottant, quoi.
Ah, oui.
Donc, c'est un projet collectif.
Eh oui.
Ok, oui, évidemment.
Mais l'idée reste là et la péniche reste là. Maintenant, on va voir ce qui...
Ouais,
de quoi l'avenir sera fait, personne ne le sait, mais voilà.
Voilà, hein, c'est pas pour rien que dans notre salon Mumble, nous ayons Radio Caroline.
Mais c'est vrai qu'il a projeté un modèle par rapport à cette péniche qui est totalement cohérent, qui est totalement autonome, mais en tous les cas qui.
Oui.
Qui prêche, qui prône et qui tend vers l'autonomie.
Oh, Pilar, figure-toi que je suis. Sur une émission audio en direct. Tout, on se rappelle d'antan.
Tu es très demandé, Marie. Hein.
Hein?
Tu es très demandé, Marie. Hein.
Non, c'est triste. C'est aussi une vieille, enfin une ancienne copine qui habite dans le sud-ouest.
Ouais,
je préfère quand on me demande pour une autre raison, tu sais.
ouais, je comprends. C'est sûr que le temps avance, certes. Bon.
Oui. Moi, j'avais un dernier sujet. C'est comme on est quand même tous de neutrinettes. J'avais entendu dire que Yvan avait été un des fondateurs. Ou en tout cas, un des pionniers chez Neutrinet. Est-ce que Holm ou Marie, vous avez quelque chose à raconter?
Ou Daco?
Oui, ou toi, Denis?
Il suivait Bayard. Il aurait fantasmé ça comme... qui en est aussi en Belgique depuis très longtemps. Des ISP indépendants.
Uh-huh. Ah oui, il suivait Benjamin Bayard, c'est ça. Oui, ok.
Ouais, c'est ça.
Depuis
le début.
Le point de rencontre intéressant, c'était Yvan et Laurent Peuch.
Ouais, Bram.
Je pense que Bram et sans Yvan, je crois que Neutrinet ne serait pas ce qu'il est.
N'aurait pas eu ce kérosène de départ.
Je crois pas. Vraiment. Personnages qui sont assez antinomiques, bizarrement assez différents. Enfin, c'est très intéressant. Excuse-moi, Olivier, je me trompe pas en disant ça.
Je crois que c'est une collusion de toute une série de personnes
oui.
qui étaient à la fois liées par Yvan et l'idée de différents services.
Et toi aussi.
Donc il y avait Bram, il y avait Cédric.
Et toi aussi. Et toi aussi, excuse-moi. Et moi, toi aussi, Olivier, via la brique et tout ce que tu as pu amener via Olimex et tes recherches vis-à-vis de ça, c'est clair. Sans toi non plus, enfin bref. Ok. Il y avait
la mouche du coche, comme Yvan.
Mm-hmm. Oui.
À essayer de motiver des gens, à essayer de motiver des énergies, à pousser dans cette direction de décentralisation et de pouvoir avoir des institutions ou des extitutions qui s'organisent et qui permettent aux citoyens d'avoir un petit peu de pouvoir sur leur réseau. Et je crois que c'était tout à fait dans l'idée d'Yvan. Donc, il a sauté sur l'idée et tout à fait en... Par exemple, Allez, le projet de réseau citoyen a été un catalyseur de personnes et d'idées. Et il en est sorti divers projets, dont Neutrinet. Il y a eu aussi la RAT. Je ne sais pas où ça en est exactement, mais la régie alternative de télécommunications qui faisait de la téléphonie.
Je pense que ça tourne toujours. Mais ça, il faudra voir avec Cédric maintenant.
Et donc, justement, tout ça, c'était dans ces idées de décentralisation, de gestion citoyenne et, anarchiste, en fait, de système et de la société, où chacun a sa liberté, chacun a sa propre... impact dans le fait qu'il s'investit en fait dans les projets. Et Yvan était particulièrement actif chaque fois où ça se déployait.
Je crois que c'est
ça. Il y a un truc là-dedans où il avait le sens, le flair par rapport à ce genre de projet.
Excuse-moi.
Il se retirait avant d'avoir un rôle trop important. Pas qu'on le voit.
Exactement. C'est ce que je veux dire aussi par rapport à son ego. C'est la personne qui dit « Allez, il faut y aller !» Et puis, hop.
En même temps, dès qu'il s'agissait d'argent aussi, c'était le premier à s'en courir. Il gérait ça très mal. Mais... au niveau résilience, ça donne quelque chose de bien, le fait en fait de disposer d'un réseau qui ne dépend pas d'argent, qui ne dépend uniquement d'échanges. Et son réseau à lui était très puissant. Il voulait un générateur, dans l'heure il l'avait, quoi. Il voulait ça, bref. Et je le vois aussi comme ça, comme un logisticien, comme un... Voilà. Aussi un jeu. Oui, c'était aussi ça.
C'est là où il a compris, par exemple, l'intelligence de la monnaie libre. Mmh. Et où, tout d'un coup, malgré le fait qu'il n'aimait pas la monnaie, il a compris que la monnaie libre, ça pouvait être un moteur pour arriver à cette économie du don.
Ouais, c'est ça. En tout cas, il voulait éviter le côté aliénant de l'argent standard, classique. Mais
c'est important.
Le côté libérateur et libératoire de la monnaie libre. Là on revient avec le créneau de source.
Oui, là, on rentre dans des schémas et des débats qui sont très, très complexes et qui sont chouettes et tout. Mais on voit que tout ce qui touchait était assez complexe en réalité. Sous son air léger, sous son air bon enfant... ils s'attaquaient à des morceaux quand même assez ardus, souvent. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui l'a contacté la semaine passée. Apparemment, il était très préoccupé par la situation de Julian Assange. Donc, on parle toujours d'Yvan. Donc, il y avait toujours cette préoccupation politique aussi sous-jacente. Hein, quand même, c'était le brûlé sous-jacent, quoi. Le feu sous la braise.
Il n'y avait pas que ça. Moi, les dernières discussions que j'ai eues avec lui, c'était par rapport à la situation sanitaire, à la médecine et à la manière dont on pouvait s'occuper, prendre soin les uns des autres. Et la situation actuelle dans laquelle on est tous, qui pose tellement de questions et en même temps tellement de besoins de soutien. Je pense qu'il posait les bonnes questions.
Et la poissonnerie, alors, qui est aussi un de ses ouvrages, hein, quel était son...
Une source d'inspiration, un moteur, un vortex annexe. Oui.
Ouais, parce que toi, tu Denis, oui, les tables d'hôtes du jeudi avec Marie et ses carbonates flamandes que j'ai toujours loupées, parce qu'elles étaient sur d'autres.
On n'a jamais fait de carbonates flamandes.
Sur ce coup-là, Yvan, il s'est pas directement impliqué dans des confections de repas et de bas à Rennes. Mais par contre, quand les plombs sautent ou quand il y a une fuite à la cave, là, est intelligent pour détecter le problème, quoi. Ça, c'est incroyable.
Coordonner les récup, ça
c'est venu après.
C'est ce que je disais, c'était
parce
un peu un
catalyseur. La construction du projet Make-It,
ouais.
Yvan, donc à l'époque, il s'est posé chez moi pendant deux, trois mois d'été, je vais dire. Et il a élaboré les maquettes et puis il a réfléchi à la taille réelle, etc. Et voilà. Il avait la grande salle blanche. Au mois d'août, il n'y a pas de table d'hôte. Donc, il a pu étaler sa marchandise. Enfin, et alors, il y a des photos qui le montrent. Il a construit l'ossature, en fait, de la cabane, a été dressée dans la poissonnerie. Et puis, on a réouvert une table d'hôte et tout le monde rigolait, on mangeait. Et puis, il habitait, parce que la péniche, il le passionnait de moins en moins, en fait. Et alors, il habitait dans une caravane sur la friche Josapha. Et il a tenu mangeant les orties. Et puis, je savais qu'il y avait des logements prévisibles dans la rue du Progrès. Et je lui ai dit, tu sais, t'as vraiment le profil, quoi. Inscris-toi dans notre liste, etc. Et assez vite, la commission logement, la coloc, a proposé une combinaison. Il y avait les passionnés du vélo, Yvan, Alibawa. Hein. Yvan, il avait chapeau Alibawa tellement. Pour Yvan, c'était un fin technicien du vélo, quoi. Amaury, tu vois, c'est Kevin.
Enfin, le charmeur avait frappé à nouveau.
Oui, mais il ne charmait pas sans raison.
Non, jamais. C'était pas un charme désintéressé. Je ne sais pas ce que je veux dire.
Il avait un tel charme. Oui. C'est aussi ça qui est terrible chez Yvan.
Mais ça n'aide pas. Hein.
C'était vraiment une personne qui était terriblement agréable.
Mmh.
Il arrivait difficilement à se rendre chiant. Sauf quand tu demandais du thé. Ou...
Non, même pas. Non.
Non, je rigole. Mais il nous reste deux petites minutes d'émission avant la suite de What is Sleep. Donc, c'était notre hommage ici à Source, forcément, de rendre le père Yvan, hein, en haut de l'autel. Y a-t-il d'autres moments où on pourra se retrouver à la poissonnerie? Est-ce qu'il y a des petits bouts de cérémonie qui est en route pour se retrouver dans la vraie vie? Bon, encore avec un vrai masque, certes, mais au moins se retrouver comme avant, quoi. Comme au début 2020.
Je me permets de dire, voilà, qu'il y a déjà... Il y a certains liens qui vont d'ores et déjà circuler et qui sont des liens de vidéos vers des témoignages d'Yvan. Mm-hmm. Il y en a déjà vraiment un bon... Il y en a un bon nombre et chaque vidéo est un peu différente et voilà, et c'est peut-être voilà, à envisager pour la suite.
Et on peut faire passer ça par
une suite positive,
d'autres réseaux que les réseaux privés.
Ça passera sur le PeerTube, hein, sur le Fight for Info.
Voilà, fightforinfo.com. Excellent.
Fight for Info. Donc, il y aura des différentes vidéos postées. Le point de référence sera Ivan Markov.
Super. Merci, Denis. Merci, Terry Rock, pour Mumble. Merci, Nico. Merci, Marie. Merci, Géo. Merci, Holm. Merci, Tirce.
Marie,
merci,
je t'embrasse. Et Olivier, gros bisous à toi aussi. À bientôt, Olivier. Hein. On se voit. Hein.
Courage à vous.
Bisous à tous.
Courage dans ta campagne.
Yo.
Au revoir.